Bonjour à tous. Alors, normalement, on va m'équiper du truc de cosmonaute, là. Vous savez, le micro sans fil. Pareil. Déjà, je vous rassure, mon cœur est encore à Chartres. Il n'est pas encore à Rouen. Hop là. Vous m'entendez ? Ça marche. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ah, c'est bien. Qui a travaillé cette semaine selon les devoirs que j'avais confiés ? Allez voir la main, qui a travaillé un peu ? Waouh ! C'est pas top ça. Je rappelle que ceux qui étaient là, je leur avais confié la mission de lire Genèse 6 à 9. Si tu veux afficher le PowerPoint. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, Genèse 6, où on va lire un extrait seulement de... C'est pour ça que je voulais que vous le lisiez au préalable, parce que sinon j'aurais pas le temps. Micheline, si tu veux éteindre, s'il te plaît, ce sera mieux pour eux. Ouais, surtout devant, c'était devant, surtout, voilà. Alors avant qu'on lise, je voulais juste, et si tu veux avancer de deux diapos, je voulais juste resituer un peu le contexte. On est dans le livre des origines, la Genèse. On est quelque part dans les tout premiers chapitres, juste après ce qu'on appelle la chute, où l'homme devient pécheur, ce caractère de refus de l'autorité de Dieu, d'une vie indépendante de lui, et qui se traduit par des actes, des pensées mauvaises. Première question, est-ce qu'ils ont existé ? Est-ce que ce ne sont pas que des mythes ? Vous trouverez des commentateurs qui considèrent que voilà, c'est un mythe certes important, mais qui n'a pas réellement existé. Il y a eu les dinosaures, vous avez eu des hommes préhistoriques, mais pas de déluge. Première remarque, en Matthieu 24, Jésus-Christ, notre Seigneur, dit, je ne l'ai pas affiché, mais je vais vous le lire, en Matthieu 24, verset 35, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, ni même ni le Père, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du jour du Fils de l'homme. » Notre Seigneur parle de Noé, et ça suffit à... pour moi, à croire que Noé existait et que le déluge dont il est parlé un peu plus loin, puisque le verset poursuit, car dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même du jour du Fils de l'homme. Voilà, notre Seigneur a parlé de Noé, a parlé du déluge, donc je crois... ce n'est pas un mythe, que c'est bien une réalité. Le deuxième point, c'est un point plus fondamental qui est clairement stipulé dans notre confession de foi, c'est que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et que ce n'est pas un mélange de vérité et de mythe. Elle est toute et complètement parole de Dieu. Néanmoins, certains sont peut-être quand même perplexes en se disant « mais la science ne montre pas vraiment de déluge ». On parle de plein de choses, mais pas du déluge. Je peux comprendre ça, c'est tout à fait respectable pour quelqu'un qui est perplexe et qui doute. Et si certains sont intéressés pour creuser ces choses-là, je vous invite à venir me voir à la fin. Et j'ai déjà eu pas mal de personnes qui sont venues me voir quand j'ai parlé de Cain et Abel et de la création. Et si on aura suffisamment un petit groupe important, on proposera certainement quelque chose. Mais pour vous stimuler, je vous propose deux choses, si tu veux cliquer. Ça, c'est ce que trouvez sur le site du Huffington Post, qui fait partie du groupe, un groupe média Le Monde, pas spécialement chrétien, ni créationniste, ni américain, un peu très tourné dans cette tendance-là. Ça date du 6 mars 2016. C'est pas vieux, hein. Il y a une semaine, le Huffington Post avait ça. Un scientifique reconnu aurait les preuves que les déluges bibliques a bien existé. Juste pour des fois l'idée ambiante que c'est pas possible. C'est juste, je dis pas que c'est vrai, mais en tout cas que certains s'interrogent. Pour juste casser nos certitudes. Et puis deuxième transparence, si tu veux, voilà. Je voulais juste souligner, pour moi, ça évoque quelque chose, que dans tous les récits un peu fondateurs de toutes les civilisations et de toutes les cultures, quasiment où vous soyez, que vous soyez chez les Amérindiens, c'est la civilisation Maya, chez les Scandinaves, chez les Romains, les Grecs, les Perses, vous retrouvez une histoire de déluge dans l'histoire fondateur, dans les récits fondateurs d'un peuple. Tout le temps. C'est très étonnant qu'on trouve ça. On a pu penser qu'on ne trouve que là. Non. Il est dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Juste histoire de relativiser parfois les certitudes qu'on peut nous laisser entendre. Mais ce n'est pas là-dessus que je justifie ma croyance, parce que mon Seigneur a parlé de Noé du déluge, donc je le crois. Et je le crois parce que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Si tu veux cliquer, on va donc lire un extrait, et c'est pour ça que je vous avais demandé de le lire, parce qu'on ne va pas pouvoir tout lire. Donc je vais faire une petite sélection. On va commencer en Genèse 6, au verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras sur cette arche, tu disposeras cette arche en cellules, et tu endureras de poids dedans et en dehors. » Je vais sauter un petit peu quelques versets qui décrivent un petit peu, verset 17. « Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Et puis on va sauter au chapitre 7. Et au verset 16, chapitre 7, verset 16, « Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. » Au chapitre 8, verset 1er, « Et Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. » On va sauter tout un petit passage qui vous parle de corbeaux et de colombes. Et on va arriver au chapitre 8 et au verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, et tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, et tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu bénit Noé, ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte, d'effroi pour tout animal sur la terre, pour tous les oiseaux du ciel, et pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, qui est son frère. Voilà, j'ai juste fait un petit extrait. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et je vais juste, si tu veux cliquer à nouveau, je vais juste rebalayer très rapidement, un peu dans la méthode que nous a proposé Clément Coca, où là je vais juste faire une tape un peu d'observation après avoir lu le texte. Le texte qu'on a lu commence par un peu un mystère, où il est dit que les fils de Dieu viennent et prennent pour femmes les femmes des hommes. Ce qui est assez surprenant. Alors quand il, déjà pour l'explication, quand il est parlé de fils de Dieu, ce sont ceux dont la paternité c'est Dieu. Et ce n'est que, il n'y en a que deux, il n'y a soit Adam, soit c'est des anges. Puisque tout autre homme n'a pas pour père Dieu, mais a pour père un autre homme, une autre femme. Et donc il s'agit d'anges qui sont venus vers les femmes des hommes, union particulière, et quelque part la parole n'en dit pas plus, si ce n'est que on voit que ça a des conséquences claires sur ce monde. Conséquence où Dieu dit, mais suite à ça, voilà, mon esprit ne restera pas dans l'homme pas plus de 120 ans. Et il constate que la méchanceté de l'homme est de plus en plus grande. J'ai dû mettre l'expression, toutes les pensées du cœur des hommes les portaient chaque jour uniquement vers le mal. On arrive dans un extrême de méchanceté du cœur de l'homme, au point que Dieu se repent d'avoir fait l'homme. Le cœur de Dieu est affligé face à cette extrême méchanceté et corruption sur la terre. Et il prend cette décision de détruire ce monde, de détruire tout homme, toute créature, à une exception, Noé, homme juste et intègre. Et puis sa fille, enfin ses fils, c'est les femmes de leurs fils, enfin bon, 8 personnes. Et il lui commande de faire une arche. Le déluge arrive, les eaux passent, détruisent toute chair, et puis Dieu se souvient. Et il fait une nouvelle alliance avec ses 8 personnes, avec Noé et ses descendants. Nouvelle alliance sur notamment la nourriture qu'il donne aux hommes. Et puis, on ne l'a pas lu, mais pour ceux qui ont lu le chapitre 31, ça se termine par un triste passage où Noé termine, on voit une situation où Noé est quelque part s'enivre et malédiction sur Cam et sa descendance. Voilà, juste pour rebalayer complètement le texte très rapidement en observation. Voilà, maintenant qu'on cherche à le comprendre et un peu à l'appliquer, si tu veux cliquer. Premier point, c'est que c'est le plus grand jugement de Dieu jamais connu. Quand j'étais plus jeune et que je lisais à mes filles, et je pense beaucoup l'ont fait, je lisais des petits livres sur l'histoire de Noé. Avec mes enfants, je tournais les pages et on voyait les animaux qui montaient dans l'arche. Et ma fille, oh, c'est quoi ça? C'est une girafe, boum. C'est quoi? C'est un éléphant. Donc j'ai beaucoup lu l'histoire et c'était super de raconter l'histoire avec mes filles. C'est juste que c'est pas que l'éléphant et la girafe qui montent dans l'arche. C'est le plus grand jugement où Dieu décide de détruire l'intégralité de la vie sur Terre, à l'exception de 8 personnes. C'est très loin de la petite histoire gentille que je lisais à mes filles, en fait. C'est un jugement extrêmement dur, j'allais dire, d'une très grande violence. Pourquoi un tel jugement? on l'a lu dans le, on l'a lu et je l'ai souligné, le fait qu'on était arrivé à un point où il est dit que toutes les pensées du cœur de l'homme ne le portaient chaque jour que vers le mal. La raison d'un tel jugement, c'est le péché de l'homme. Premier point, déjà, Dieu utilise une catastrophe, le déluge, pour exercer son jugement, ce qui ne veut pas dire que toutes les catastrophes sont des jugements de Dieu. Pas qu'on fasse un parallèle en disant que chaque fois qu'il y a une tornade, une tempête, un raz-de-marée ou un tsunami, ce soit un jugement de Dieu. Je voudrais qu'on note les étapes, et je les ai notées là, du jugement. Parce que c'est un enchaînement qu'on va retrouver de nombreuses fois dans la parole de Dieu. Le premier point, c'est que notre Dieu est un Dieu qui est saint, qui ne peut pas tolérer le péché. C'est intolérable pour lui. Mais Dieu aime les hommes, donc il désire leur repentance. Il ne désire pas les voir mourir. Donc chaque fois, Dieu va envoyer un prophète, et dans le cas, c'est Noé. Il va patienter, il va avertir, et lorsque le péché est à son comble, Dieu déclenche un jugement. Mais il prévoit toujours, pour ceux qui ont la foi, un moyen d'échapper, un moyen de salut. Et ce, j'ai appelé ça le cycle, le mot est peut-être pas très juste d'ailleurs, c'est pas très, le cycle n'est pas très juste. Ce modèle, si je peux dire ça comme ça, de ces étapes-là, c'est comme un... Ouais, j'aime bien le mot modèle, alors il ne vous parle peut-être pas, c'est comme un schéma qui se reproduit. Et si tu veux cliquer, ce schéma, on va le retrouver au moins, je l'ai cité cela, quelques fois où on trouve cette circonstance. Genèse 19, vous avez l'histoire de Sodome et Gomorre, où si Dieu va détruire par le feu la ville de Sodome et Gomorre, il n'empêche qu'avant, si vous vous souvenez, juste avant, Dieu ne désire pas la mort du juste, et on a cette très très belle discussion entre Abraham et Dieu, où Abraham va plaider en disant « Mais s'il n'y a que 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville ?» Et Dieu dit « Non, ben, je ne la détruirai pas. » Et Abraham revient en disant « Excuse-moi, mais s'il n'y a que 40, est-ce que tu vas détruire jusqu'à 10 finalement ?» Mais il n'y avait pas 10 justes. On voit bien que Dieu ne désire pas la mort des hommes. Et puis, il a prévu pour les justes et pour Lot notamment, un moyen de salut pour faire sortir Lot et sa famille avant que le jugement du feu ne tombe. On ne va pas le détailler, mais en Deutéronome 9, on voit que lors du veau d'or, Dieu se dit « Mais je vais détruire ce peuple. Et pour toi, Moïse, je vais reconstruire un autre peuple pour moi, de toi. » Et finalement, Moïse incline le cœur de Dieu et Dieu ne détruit pas. J'ai cité Ninive. On connaît beaucoup l'histoire de Jonas et de Ninive, enfin, et du gros poisson. Encore que je raconte à mes filles, hein, des petits livres. Sauf que c'est l'histoire d'un jugement où Dieu va dire « Je vais juger Ninive, va leur dire, va les avertir. » Et Ninive s'en repent. Et vous avez sur les royaumes d'Israël et de Juda le même cycle. Deux rois 17, c'est l'histoire du royaume d'Israël. Vous savez que le royaume est divisé entre le royaume d'Israël, le royaume du nord et le royaume du sud de la tribu de Juda. Et en fait, si vous lisez Deux rois 17, vous trouverez exactement ce que je vous ai dit, où on voit qu'il est dit que le peuple a commencé à établir sur toutes les collines des lieux d'adoration pour des idoles. Et il y a un verset qui est le verset 13 qui dit que Dieu avertit en envoyant des prophètes. Verset 14, il est dit, mais ils n'ont pas voulu écouter, ils raidirent leurs coups. Il m'a dit qu'ils firent des choses de plus en plus abominables, et notamment faire passer leurs fils, leurs enfants par le feu, en adoration au dieu Moloch, etc. Et Dieu dit, c'est terminé. Le péché est à son comble, il fait venir le peuple assyrien de Babylone qui va déporter le royaume d'Israël. Vous trouvez la même chose en 2 Rois 24 avec le royaume de Juda, qui là encore, Dieu avertit par des prophètes, Dieu veut que le peuple se repente, mais le peuple ne se repent pas. Et Dieu dit, lorsque le péché est à son comble, je viens et je déporte le royaume de Juda. On retrouve ces mêmes étapes d'un Dieu qui ne peut tolérer le péché, mais qui va avertir, qui va être patient, vraiment patient, mais qui, lorsque le péché est à son comble, va juger les choses. Et si tu veux cliquer, si ce qu'on a vu, ce sont des jugements du passé, il y a un jugement à venir, et on trouve cela en 2 Pierre 3, verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et qu'ainsi qu'une terre fut tirée de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. On parle bien du déluge là, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement. Comme pour Noé, Dieu est patient envers ce monde d'aujourd'hui, qui s'éloigne de plus en plus de lui. Et quand on regarde ce monde avec l'évolution de la morale, de ce que l'homme fait de plus en plus, on mesure combien parfois la corruption de ce monde est grande, mais Dieu est patient. Il veut que tous les hommes se repentent. Il a envoyé un prophète, et plus qu'un prophète, il a envoyé son fils pour avertir et pour attirer les hommes à lui. Et puis il y a nous, tous ces enfants qui sont là aussi pour avertir et pour témoigner qu'un jour ce jugement arrivera. Mais lorsque Dieu aura décidé que le terme, lorsque l'iniquité est à son comble, Dieu exercera son jugement. Et si tu veux cliquer, la question que je veux vous poser, est-ce que tu es dans l'arche ? L'arche, c'est le moyen que Dieu a prévu pour Noé, l'homme de foi et sa famille. Et dans toutes les situations qu'on a vues, il n'y a que deux possibilités. Soit je suis dans l'arche, soit je suis pas dans l'arche et je serai détruit. C'est un peu dur et quelque part violent ce que je dis, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Cette arche, c'est Christ. Et lorsque, à la croix, Christ est mort, comme il est dit en Éphésiens, j'étais pour ma part, et comme beaucoup d'entre nous, j'étais en Christ, j'étais en lui. Et toute la colère du jugement de Dieu est tombée sur l'arche, et moi j'étais en lui, gardé. Et je ne serai pas jugé. Je pense que vous connaissez bien ce verset, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné une arche, Jésus, afin que quiconque contre lui ne périsse pas par le déluge, mais la vie éternelle. C'est pas tout à fait ça, mais bon, vous avez compris le sens. Est-ce que vous vous êtes posé cette question, mais c'est pas un peu sévère quand même ? Ça va pas traverser votre esprit de se dire c'est un petit peu dur quand même. Dieu détruit l'intégralité de l'humanité, de tout ce qui vit. Personne ne s'est posé cette question, il n'y a que moi. Bon, ok, je ne suis pas le seul, ça va. C'est une question qui me semble légitime. Et ça m'interroge sur déjà comment je me positionne. Quelque part, quand je dis c'est pas un peu sévère, je me positionne à Dieu en disant mais explique-moi ta justice. Explique-moi, je la comprends pas et je conteste un peu ta justice. Et si on prend un peu de recul, si réellement Dieu est Dieu, et si moi je suis sa créature, je vous propose deux propositions, laquelle est juste? La première, c'est « Je ne suis qu'un homme, Dieu est Dieu, et je crois que je ne comprends pas tout. » Et je souhaite que Dieu me révèle son point de vue, parce que probablement, je n'ai pas la vue juste. Je suis myope et je ne vois pas. Je ne comprends pas parce que je ne suis qu'un homme, lui est Dieu. Ou alors l'autre proposition, c'est que je me sens capable de juger les actes de Dieu et de lui demander des comptes. Et je souhaite que devant, même si quelque part on ne comprend pas, qu'on en conclue parce que je ne comprends pas, que Dieu m'éclaire, mais pas que Dieu s'est trompé. Et qu'il fait des choses qu'il ne devrait pas. Si tu veux cliquer. Mais foncièrement, on trouve ça sévère. Pourquoi on trouve que c'est sévère? Parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'est le péché. Parce que le péché, c'est pas si grave. Un verset en Luc 5, je ne l'ai pas noté, mais c'est Pierre. En fait, il voit Jésus faire un miracle. Et quand il voit Jésus faire un miracle, qu'est-ce que Pierre dit? Simon Pierre dit, tombe aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi. Face à Jésus-Christ, il a pris pleinement conscience de son péché et se dit, je ne peux pas rester en ta présence. Et plus dans nos vies on mesurera ce que j'ai appelé le caractère abject et intolérable de mon péché, l'abîme de mon péché, plus je comprendrai que ce jugement il est juste et mérité, et plus je comprendrai l'infinie grâce de Dieu. Tout ça c'est lié. La grâce de Dieu elle est si belle parce que le péché il est si grave. Et puis le dernier point c'est d'être des témoins. La parole ne dit pas clairement que Noé a quelque part à prêcher, en tout cas à interpeller ses concitoyens. Moi je suis convaincu qu'il les a interpellés, ne serait-ce que parce qu'il faisait construire une arche là où il était, il a été un avertisseur, un prophète pour sa génération, et nous aussi on a à être des témoins. Des témoins de ce que Dieu a fait pour nous et que Dieu aime tout homme et ne veut pas qu'il soit détruit, mais qu'il monte dans l'arche pour reprendre cette image. Si tu veux cliquer à nouveau. Deuxième point, je voudrais qu'on regarde un petit peu qui est Noé, cet homme. Remarquable, vraiment remarquable. Pour ceux qui ont lu le texte et on n'a pas lu ce passage-là, on voit que Noé, il fait, non seulement il est dit qu'il est juste et intègre, qu'il marche avec Dieu, mais on voit qu'il fait exactement ce que Dieu dit. Verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Chapitre 7, verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 9, comme Dieu l'avait ordonné. Verset 16, comme Dieu l'avait ordonné. Noé est un exemple d'obéissance. Vraiment, il fait ce que Dieu demande. Et il ne s'en écarte ni à gauche, ni à droite. Mais, quelle est l'origine de cette obéissance? Pourquoi il obéit? Pourquoi il fait exactement ce que Dieu dit? Voilà, c'est ça. Parce qu'il a la foi. Il croit Dieu. Et c'est ce qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, où justement... Exactement, c'est voilà. Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Effectivement, j'ai un petit. C'est ça. Qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est vraiment sa foi. Et prenons un instant pour mesurer la foi de Noé. Il bâtit une arche, probablement, enfin c'est pas dit textuellement, mais rien ne nous dit qu'il était au bord de la mer, probablement au milieu des terres. Voilà, qui construit un bateau immense. Et pour tous ses contemporains, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens ce qu'il fait. Hein. Dieu lui dit, il va pleuvoir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quelque part, je pense qu'il ne sait même pas ce que c'est que la pluie, en fait. Puisqu'il est dit en Genèse 2, verset 6, qu'au départ, la création, c'était une vapeur qui montait du sol. Je pense que la pluie n'était pas encore connue. Donc Dieu lui dit, il va pleuvoir, mais je ne sais pas ce que c'est que la pluie. Il parle d'un jugement qui va détruire toute vie. C'est juste incroyable, pour utiliser l'expression. Sauf qu'il l'a cru Noé. C'est juste le... Quelque part, si je peux dire comme ça, humainement, ça n'a pas de sens. C'est délirant. Mais il croit ce que Dieu dit. Il croit la parole de Dieu. Ça heurte son raisonnement, mais il croit. Dieu a dit, donc je crois. Un exemple des évangiles, où vous savez, Pierre, avec d'autres disciples, il a pêché toute la nuit. Il n'a rien pris pendant toute la nuit. Et Jésus lui dit, vas-y, recommence. Va à nouveau pêcher. Ça n'a pas de sens. J'ai pêché toute la nuit. Mais Pierre dit, Maître, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je lâcherai le filet. Pierre dit, ça n'a pas de sens, je viens de pêcher, mais tu l'as dit, je le crois. Et que ce soit un exemple pour nos vies, ou dans ma vie, dans votre vie, il y a des fois ce que je vois, ce qui me semble raisonnable, ce qui a du sens, mais Dieu a dit. Donc je crois, c'est un choix de croire ce que Dieu dit. Et si tu veux cliquer, j'ai mis cette expression « avoir une foi radicale ». Alors le mot n'est pas toujours compréhensible. Il y a une forme de radicalité, j'allais dire d'extrémisme, si je peux utiliser ce mot-là, alors qu'il pourrait être mal interprété. Ne soyez pas des extrémistes violents, soyons des gens doux et paisibles à l'image de notre Seigneur, mais il y a un extrême de foi, un choix de dire « je crois Dieu envers et contre tout ». Si Dieu a dit, je n'en démords pas. Et je le crois, encore et toujours. Alors j'ai juste mis pour moi-même. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que parfois dans nos vies, on croit Dieu et ce que Dieu dit, mais c'est surtout pour les autres, pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire, et pas pour moi. Et je vous invite d'abord à croire ce que Dieu dit pour moi-même, et qu'on se l'applique. Il est déjà mis. C'est que la conséquence de notre foi, ce sera qu'elle soit mise en pratique. Et c'est ce qu'on appelle l'obéissance, comme Noé. Que notre foi se traduise par des actes et pas uniquement par notre salut, mais que ce soit une mise en pratique de chaque jour pour mettre Dieu en premier dans nos vies. Pour lui obéir, pardonner encore et encore. Il y a tant de sujets dans la Bible qu'il nous faudrait simplement appliquer, obéir. J'ai deux questions. Comment, lorsque vous lisez la Bible ou dans un temps de prière, lorsque Dieu vous montre quelque chose dans vos vies à changer, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous trouvez une excuse pour reporter à plus tard ce que Dieu vous montre de faire? Est-ce que vous vous justifiez pour lui expliquer à Dieu que il vous dit ça, mais vous ne pouvez pas le faire, voilà. Ou est-ce que vous dites, oui, maître, je fais ce que tu m'as montré ce matin dans ta parole. Et je vous propose un test pour savoir si vous êtes obéissant à ce que Dieu vous dit. probablement que vous n'êtes pas la personne qui est la plus capable de savoir si vous êtes obéissant à ce que Dieu dit. Par contre, ceux qui sont autour de vous, ils le voient bien. Et pour ceux qui sont mariés, on pourrait demander à l'épouse si son mari est obéissant à Dieu. On pourrait demander à qui je vais choisir. On va pas le faire. Et dans nos vies, on est souvent... Et ça dépend des domaines. Il y a des domaines où je suis obéissant, il me semble. Et puis il y a des domaines où je suis rebelle à Dieu. Et je ne veux pas lui obéir. Et moi, je ne me rends pas bien compte. Ma femme, elle s'en rend compte. Et demandez aux gens qui vous entourent, ils vous diront, là, vous n'êtes pas obéissant. Si tu veux cliquer, parce que je vais essayer de ne pas être trop long. Quelle heure il est ? Ouais, ça va encore. Je vais essayer de passer vite, parce que l'alliance avec Noé. Dans l'alliance qu'il fait avec Noé, je vais juste balayer quelques idées. Dieu dit déjà, je n'enverrai plus de déluge. Je l'ai fait, mais je ne le ferai plus. Et juste, si vous pouvez creuser cette idée-là, elle est intéressante. Pourquoi Dieu dit qu'il n'enverra plus le déluge ? C'est quasiment pour la même raison qu'il envoyait le déluge. Parce qu'il dit, Dieu dit, le cœur de l'homme est mauvais dès son enfance, c'est un fait, et je ne maudirai plus la création à cause de l'homme. Quelque part, constate que de toute façon, l'homme est comme ça, et que ce n'est pas un... Je ne détruirai plus, alors voilà, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu va bénir Noé et sa famille. Il va définir que l'homme maintenant a autorité sur toute chair et qu'il peut manger de tous les animaux. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que il fait une espèce d'identification. Genèse 9, verset 4. Seulement vous ne mangerez point de chair. Il parlait donc de tous les animaux qui étaient donnés comme nourriture. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Il y a comme dans la formulation du texte, une espèce d'identification avec son sang. Vous ne mangerez pas de toute chair avec son âme, avec son sang. Et je voulais souligner cette association parce qu'elle me semble vraiment, vraiment intéressante. Et ça mériterait vraiment toute une étude ou tout un message. Et pour ceux qui veulent prendre un sujet comme ça, je vous invite à prendre ce sujet-là. Je l'ai fait il y a quelques années. Vraiment, c'est un sujet très très intéressant. C'est comme un fil rouge. C'est un fil rouge à travers la parole. Et je vais les balayer très rapidement pour vous inciter à faire cette étude-là. L'importance du sang. Si vous lisez les prescriptions du Lévitique, vous retrouverez cette association entre le sang et l'âme. On parle de la Pâque, avec le sang qui était sur les poteaux, les linteaux, le grand jour des expiations où on portait le sang d'un agneau dans le lieu très saint. David, il avait le désir de construire une maison pour l'Éternel. C'est lui qui a ce désir de construire cette maison. Mais Dieu lui dit, c'est pas toi qui construiras cette maison. Pourquoi ? 1 Chronique 22. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Bien évidemment, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En Apocalypse 12, on voit le moment où Satan est jeté du ciel sur la terre dans les temps futurs. Et la victoire que remporte l'archange Michel et les anges sur Satan, quel est le moyen de victoire ? Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est par le sang de Jésus-Christ que l'archange Michel peut quelque part jeter Satan sur terre. Et le dernier... pour vous inciter à faire cette étude, comment est teint le vêtement du roi des rois, Jésus-Christ, quand il reviendra? Il est teint de sang. Et vous trouveriez beaucoup d'autres éléments où vous verrez cette importance du sang. Et pour ceux qui ont été parfois confrontés à l'occultisme, ils savent que les pactes faits avec Satan sont particulièrement compliqués à délier lorsqu'ils sont des pactes de sang. Et puis dernier point, l'église primitive était une église juive au départ. Il n'y avait que des juifs au départ. Et progressivement, l'évangile se répand parmi les nations. Et c'est compliqué parce que les juifs veulent imposer aux chrétiens des autres pays la loi de Moïse. Et donc il y a un concile à Jérusalem où ils vont débattre de cette... Qu'est-ce qu'il faut imposer aux gens des autres nations qui ne sont pas juifs? Et donc en acte 15, les apôtres se réunissent et vont décider, et je trouve ça étonnant, ils vont décider qu'il n'y a que trois choses, quelque part de la loi juive qu'on va transférer pour les gens des nations, et notamment il y a s'abstenir du sang. Ce qui était dit depuis l'époque de Noé n'a pas changé. Alors il ne faudrait pas voir là-dedans que le sang est quelque chose de magique. Le sang en lui-même, c'est pas quelque chose de... En lui-même, il n'y a rien, c'est du sang. Mais c'est que l'association qui est faite avec son sang, avec son âme, la valeur du sang, c'est la valeur de l'âme. Et c'est pour ça que Dieu dit, vous ne pouvez pas répandre le sang de quelqu'un, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un. Parce qu'il est là une âme, et cette âme, j'en redemanderai compte, elle est faite à mon image. C'est ce qu'on voit, je fais en toute vitesse, mais ce qu'on trouve en Genèse. Et pour moi, ça nous fait mesurer l'immense valeur du sang de Christ. La valeur du sang de Christ, c'est la valeur de l'âme de Christ. Cet homme absolument parfait, qui n'a jamais commis le moindre péché, qui n'a démontré qu'amour, grâce. Même lorsqu'on le clouait sur la croix, il demandait pardon pour ceux qu'il clouait sur la croix. Et cette âme absolument pure, cet agneau sans tache, la valeur du sang de Jésus-Christ, c'est la valeur de cette vie, de cette âme. Et tout à l'heure, quand on prendra la scène, mesurons l'immense valeur de ce sang répandu pour nous. Et que ça porte nos cœurs l'adoration. Si tu veux cliquer, je vais terminer avec quatre points. La première chose, à l'image du déluge, un jour Christ reviendra et ce sera en jugement. Il est dit que la terre est gardée pour le feu du jugement. Christ est mon arche. C'est en lui que je suis préservé de ce jugement. Je ne suis pas jugé. On voit que dès les premiers chapitres, Dieu met une emphase particulière sur le sang. Il lui donne une valeur toute particulière parce que c'est la valeur de l'âme. Et je viens de parler de cette grande valeur du sang de Christ. Et puis que dans nos vies pratiques, nous puissions imiter Noé. Imiter sa foi radicale. Sa foi qui croit parce que Dieu a dit c'est tout. Et même si je ne vois pas et même si je ne comprends pas, je crois. Et que cette foi soit pas seulement une foi théorique, mais une foi pratique. Une foi où j'obéis. Et puis pour terminer, pour ceux qui ont passé cette semaine un peu de temps à lire et à méditer ces passages, vous avez peut-être encore plein de questions. Parce que j'ai fait trois petits points comme ça, mais vous avez peut-être interrogé sur des points, où vous avez des questions, etc. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin et poursuivre, eh bien, je suis à votre disposition, soit de vive voix, soit par mail, pour continuer l'étude et que vous en tiriez un maximum pour votre vie avec Dieu.